comme héritage pour le désintéresser du véritable héritage. Et quel était ce véritable héritage? C'est celui que Jacob a obtenu. Yaakov ou Bana viardou Mitzrayim. Et Jacob et ses enfants sont descendus en Égypte. C'est ça l'héritage. Alors, on peut dire que cette sortie de l'idolâtrie fait, enfin, en même temps, elle fait le lien, parce que le récit de la sortie d'Égypte, il parle de la période de l'esclavage. On était esclave en Égypte, mais la question que je pose, mais d'où on venait? On n'est pas né en Égypte esclave. Alors ici, le petit récit, le petit morceau de récit là, qui est là, il part de Abraham, même la génération avant Abraham, et elle nous amène jusqu'au moment où on est en Égypte. Voilà, maintenant, ça fait le lien entre Abraham et le récit de l'esclavage égyptien, sans dire du tout le comment on est devenu esclave, mais on est descendu en Égypte. On redescend en Égypte, et voilà, maintenant on est en Égypte. Maintenant, on peut commencer le récit qui dit Avadim Aïnou le Pharaon, le Mitzrayim. On était esclave de Pharaon en Égypte. Donc, ça fait le lien, si on veut. D'un autre côté, il y a quelque chose qui est un peu étrange, c'est qu'on a presque l'impression que si on suit ce récit de sortie de l'idolâtrie, on a l'impression que si tu sors de l'idolâtrie, alors tu dois entrer dans l'esclavage. D'accord? Si on dit que c'est la continuité, on est sorti de l'idolâtrie avec Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il donne en héritage à ses enfants? L'esclavage. Alors, est-ce qu'il faut voir dans l'esclavage une continuité ou c'est-à-dire un affaiblissement de l'idolâtrie? Est-ce que l'esclavage, c'est quelque part, avant on avait une flopée de dieux, etc., de tous ordres. Maintenant, on s'est éloigné de ces divinités et l'esclavage, c'est on a un maître. En l'occurrence, c'était Paro. Donc, avant, il y avait des dieux qui étaient les maîtres. Maintenant, on les a remplacés par un seul, mais qui n'est plus maintenant une divinité. Bien que chez Paro, qui est le maître de l'esclavage, ce soit très ambigu, puisque vous savez bien que Paro était aussi une divinité égyptienne. D'accord? Le pharaon, c'était une divinité. Et de ce fait, c'est comme si on était passé vers d'un polythéisme idolâtre, un monothéisme idolâtre toujours, et qui vire à l'esclavage, en fait. Les sujets sont plus des croyants, des adhérents à une croyance. Ce sont des gens qui sont obligés de reconnaître un maître. On les a mis en esclavage. Comme s'il y avait une continuité naturelle sur laquelle je ne veux pas parler plus parce que je n'ai pas encore vraiment bien compris est-ce que c'est vraiment ça. Mais c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez réfléchir. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, après, on voit que on nous dit, ben voilà, tout ce qui se passe, tout ça, c'est Akadosh Baruch qui l'a géré. C'est lui qui a, en fait, qui a le plan. Et le plan en question, c'était cette fameuse Haftacha qu'Hachem a faite, cette promesse qu'Hachem a faite, s'est présentée comme si c'était Hachem est garant, en quelque sorte. On peut lui faire confiance. Il a fait une promesse à Abraham et elle se réalise avec Israël, avec le peuple d'Israël. Et on dit effectivement que il a fait les comptes pour que ce qui avait été annoncé, à savoir 400 ans d'esclavage, alors il y avait plusieurs possibilités d'avoir ces 400 ans d'esclavage. Ça pouvait, ou d'exil d'abord, avant d'être l'esclavage. L'exil peut être compté comme à partir de Yitzhak, qui a déjà une position effectivement d'exil, ou bien alors ça commence seulement avec l'esclavage. mais c'est beaucoup plus dur, si on peut parler. Donc, il y a deux façons de. Et si ça commence seulement avec l'esclavage, alors d'une certaine manière, ça commence seulement le moment où on est en Égypte. Alors, avec nos 210 ans, on n'a pas les 400 ans. Si on dit que ça commence à partir de Yitzhak, on a les 400 ans. Mais si on dit que ça commence seulement à partir de l'exil, de l'esclavage égyptien, ou en tout cas la descente en Égypte, alors on n'a pas les 400 ans. Et si les 400 ans doivent se réaliser, alors ça ouvre sur d'autres exils. Il va y avoir d'autres exils pour compléter cet exil qui doit durer 400 ans et qui n'a duré que 210 ans. Ça veut dire, ici, c'est très clair, on est sorti prématurément parce que, on s'est présenté comme ça, parce que si on n'était pas sorti maintenant, on ne serait jamais sorti. Mais on a toujours une dette d'esclavage. Enfin, d'exil en tout cas, et cet exil en dette, eh bien, on le paie au cours des différents exils qui suivent. Parce que je vous rappelle, on parle toujours des fameux quatre exils des Bnei Israël, mais l'Égypte n'est pas incluse. Enfin, l'exil égyptien n'est pas inclus dans les quatre exils. On dit que l'exil en Égypte, c'est plutôt la mère des exils, en fait. C'est quelque chose qui contient d'une certaine manière tous les exils. Parce qu'on comprend très bien si on considère qu'il s'agit avec ces exils successifs de compléter le temps d'exil qu'on n'a pas passé en Égypte. Donc il y a ici une promesse qu'Hachem a faite et qu'il accomplit. Et alors, le rédacteur de la Haggadah, il a cité ici le fameux verset qui dit qu'Hachem a, voilà le contenu de ce qu'Hachem a dit à Abraham. Il lui a dit, Adoa Teda, sache que ta descendance sera étrangère sur terre, donc, dans un pays qui n'est pas le leur, qu'on les fera travailler, on va les faire souffrir 400 ans. Mais il y a deux choses. C'est que ceux qui les auront fait souffrir, ils vont être jugés. Ça veut dire que on va assister à la justice divine. Et deuxièmement, les Bnei Israël ensuite vont sortir avec ce fameux Rechouch Gadol, avec ce fameux grand, énorme butin. Alors, j'ai deux choses sur ces deux choses-là qu'on vient de citer. C'est que l'idée que il y a une justice divine, c'est évident. C'est bien clair que la justice divine, elle doit s'exercer. Seulement, très souvent, la justice divine, on ne la voit pas. Elle a lieu dans un futur par rapport à nous, peut-être dans un futur assez éloigné, qui est peut-être Olamaba, quoi, quelque part. Ici, c'est un privilège. Hachem a dit, ce peuple-là, je vais le juger, Gam et Agoy, Asher Yavodou, donne en Ohri, je vais le juger. Et les Bnei Israël ont vu ce jugement, puisque ce jugement, c'est la destruction de l'armée, de la structure égyptienne. Au passage de la mer. Et donc, ça, c'est d'une certaine manière un privilège de voir la justice divine à l'œuvre plutôt que d'avoir à lui faire confiance. Quand on ne la voit pas à l'œuvre, eh bien, on sait qu'elle existe, donc on est obligé de faire confiance. Là, ils ont vu. Donc, ça ne leur a pas demandé de faire confiance que la justice. Alors, c'est sûr qu'au moment où il souffrait, il ne voyait pas la justice, mais ça s'est quand même manifesté justement pour cette génération qui a eu le privilège de sortir de Mitzrayim. Ils ont aussi vu l'exercice de la justice divine. Et la deuxième chose, c'est cette histoire de Rechouch, ce butin. Alors, bien sûr. Ça, c'est donc le verset qui dit, voilà, Après cet esclavage, ils sortiront, les Bnei Israël vont sortir avec un grand butin. Et le butin, il apparaît ici comme une forme de compensation par rapport à l'esclavage. C'est-à-dire, il y a eu esclavage, vous avez souffert, mais vous allez en tirer un butin. Donc, on a un grand problème de présenter, si vous voulez, d'une part, c'est présenté la plupart du temps comme si cet exil était un paiement pour la terre d'Israël, c'est un paiement à l'avance pour la terre d'Israël, et puis c'est aussi un paiement, c'est-à-dire pour la souffrance. Et comment est-ce que, après, on va le voir tout de suite, mais la souffrance était terrible en Égypte. Quel butin peut bien faire oublier une telle souffrance? Qu'est-ce qu'on peut bien donner au Bnei Israël comme rechouche, comme butin, qui puisse passer pour un paiement pour cette souffrance absolument incroyable? Et puis, justement, ce rechouche, comment ça se fait que cette histoire de rechouche, de butin, joue un rôle tellement important dans la sortie d'Égypte? Quelle que soit l'expression de ce qu'on va choisir pour ce butin. La première expression, c'est l'or et l'argent qu'ils ont donc emprunté aux Égyptiens et qu'ils ne leur ont pas rendu, en fait. Alors déjà, comme ça, c'est assez difficile à expliquer toute cette histoire d'emprunter de l'or, de l'argent, puis ensuite de ne pas le rendre. Même si après on dit, mais ça peut être considéré comme un paiement pour tout le travail que les Bnei Israël ont fait pour les Égyptiens, pour lequel ils n'ont jamais été payés, évidemment. Mais bon, c'est une espèce d'explication. Si les Égyptiens viennent dire, vous nous devez, etc., alors on peut leur dire, mais vous, en retour, vous aussi, vous nous devez, et bien plus que ce que nous vous devions. Alors, c'est quoi finalement ce butin, en réalité? Alors, vous vous souvenez, on a vu ça dans le chiour de Chumash, il y a un Ashir Amen, sur le verset d'Averna, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de bien vouloir parler aux oreilles des Bnei Israël et que les Bnei Israël empruntent auprès des hommes, auprès de leurs prochains, et des femmes auprès de leurs prochaines, je ne sais pas si ça existe, des kélim, des ustensiles, des objets en argent et en or. Et comme Hachem a dit à Moshe, « Daber na », na ça veut toujours dire « lachon bakasha », s'il te plaît. Il a demandé une faveur, en quelque sorte. Hachem demande à Moshe la faveur suivante, demande au Bnei Israël d'emprunter. Et le problème, c'est que Hachem se justifie auprès de Moshe Rabbeinu. Il dit, pourquoi est-ce que je te demande ça? C'est parce que j'ai promis qu'à la sortie, il y aurait un grand butin. Et il faut bien que... si jamais, jusqu'à présent, je ne leur ai pas donné de butin, ils vont dire que je ne tiens pas ma parole. Alors ça, c'est aussi très étrange. Ça veut dire qu'on a l'impression, enfin, les choses se présentent comme si, en tout cas, comme si la raison pour laquelle Hachem tient sa parole, c'est seulement parce que, sinon, on va dire qu'il ne tient pas sa parole, mais il doit tenir sa parole, parce que c'est sa parole. Même si personne ne l'accuse de ne pas tenir sa parole, peu importe, mais il doit tenir sa parole parce que c'est sa parole. Donc pourquoi est-ce que c'est présenté comme « Ah sinon, les Bnei Israël vont dire, la partie souffrance qu'il avait annoncée, il nous l'a envoyée, mais le butin, il ne nous l'a pas donné. » On ne comprend rien du tout. Est-ce que ça, Ça joue un rôle dans la Géoula, toute cette histoire. Alors, bien sûr, l'idée fondamentale, c'est toujours l'idée de la radio qui tout le monde, là. Israël vont en exil pour une raison bien simple mais très importante, effectivement. Il y a une théorie qui est probablement d'origine kabbalistique qui est que au moment de la création du monde, il y a eu un accident, en quelque sorte, si vous parlez comme ça. C'est-à-dire que il y a eu de la lumière, de l'énergie, si vous voulez, qui aurait dû être contenue dans un récipient, dans un vase, et le vase a explosé. Et donc, les étincelles de cette lumière et de cette énergie se sont répandues dans le monde, et il y en a partout chez tous les peuples. Tous les peuples ont, chez eux, en eux, quelques-unes de ces étincelles fondamentales. Or, le but du monde, du travail dans le monde, c'est de rassembler toutes ces étincelles-là et les mettre au service d'Hachem. Et comment on fait pour aller les chercher? Elles sont chez les peuples. Alors, Chazal vient et disent que les nés Israël ne sont allés en galoute que pour ramener ces étincelles. Mais comment est-ce qu'ils ramènent ces étincelles? Ils ramènent ces étincelles par le biais de la guéroute. Quand il y a des personnes qui font la guéroute, ces personnes-là, elles sont capables. Elles sont équipées parce qu'elles sont nées dans ce pays-là, par exemple. Elles peuvent aller chercher les étincelles qui sont prisonnières, en quelque sorte, dans ce pays-là, dans la culture de ce pays-là. Elles peuvent aller les chercher sans que ce soit trop dommageable pour elles, parce que au moment où elles vont les prendre, elles sont encore du côté du pays dans lequel elles se trouvent avant leur conversion. Les Bnei Israël ne peuvent pas y aller parce que les Bnei Israël ne sont en quelque sorte pas du tout équipés pour aller se confronter à la Touma dans laquelle les étincelles sont enfouies. Mais les personnes qui habitent, qui vivent, qui sont de cette culture-là, elles peuvent aller chercher ça. Parce que elles n'ont pas cette sensibilité à la Touma que les Bnei Israël ont. Et une fois qu'elles sont allées chercher ces étincelles, en se convertissant, elles passent du bon côté, en quelque sorte, avec ces étincelles. Et c'est comme ça que le processus de reconstitution de l'ensemble des étincelles en une lumière au service d'Hachem va pouvoir se faire cours d'histoire. Donc, les Bnei Israël ont besoin de ces étincelles pour faire leur travail. Donc, il faut les récupérer et les mettre au service d'Hachem. C'est ça que Chazal veut dire quand ils disent « Loegla Kadosh Baruch Hu Israël ben Haumot » Hachem n'a envoyé en galoute parmi les peuples, Israël parmi les peuples en galoute, uniquement pour qu'il y ait des guérim qui viennent s'ajouter au clan Israël. Les guérim sont, si vous voulez, un élément absolument incontournable pour le travail des Bnei Israël. Les Bnei Israël ne peuvent pas faire le travail s'il n'y a pas de guérim. Parce qu'ils ne peuvent pas. Sinon, ils ne récupèrent pas les fameuses étincelles qui sont dispersées, qui sont enfouies dans la touma de chaque culture, de chaque peuple. Alors, c'est vrai dans tous les exils. Mais c'est bien plus vrai encore dans l'exil égyptien. C'est ce que le Maharal dit à ce sujet-là. Il dit que D'abord, il faut poser la chose suivante. Pour Maharal, il y a le problème de la parole, le problème du dibour. Le Maharal dit que le dibour, la parole, c'est ce qui permet le lien entre l'esprit et le corps. Dans le pasouk, c'est marqué « Vayitzer Hashem Elokim et Adam, Afar Mina Adama » Quand je beaucoup a créé l'homme, enfin, Hashem Elokim a créé l'homme, poussière à partir de la terre, Vayipach Be'apav, et il a insufflé en lui, dans son nez en fait, Nishmat Chayim, une neshama vivante, une neshama de vie, de la vie, quoi, si vous voulez. Et de ce fait, l'homme est devenu Nefesh Chaya. Et on traduit que, on connaît ce qu'il traduit sur place, traduit Ve'avat, Ba'adam, le roi Memalela. Cette étincelle enfin, de vie qu'Hachem a insufflée dans le temps d'Israël, c'est ce qui a transformé l'homme en un être parlant. Et dans les Sfarim, on dit que dans le Galout de Mitzrayim, en particulier, le Dibour lui-même était en Galout, était en exil. Le fameux exil de la parole. Et la libération des Bnei Israël, quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, c'est une libération pour que le Dibour, qui était prisonnier lui aussi en Égypte, et sans lequel les Bnei Israël ne peuvent pas recevoir la Torah. Donc, il faut d'abord que les Bnei Israël, qu'ils arrivent à extraire le dibour de la Touma dans laquelle il est pris prisonnier en Égypte. Bon, on ne va pas commencer à expliquer ça, etc. Mais en tout cas, ce qu'on voit, que c'est pour cette raison qu'il voulait que cette Geoula de Mitzrayim, elle fait l'objet de la mitzvah de Sipour, de raconter spécifiquement. Il n'y a pas de mitzvah de raconter en tant que telle les sorties des galouillotes, des autres galouillotes. Seulement pour les Yetzéat Mitzrayim. C'est ce qu'on dit, que c'est absolument nécessaire de pouvoir parler, de récupérer cette parole. Le Khatam Sofer, il dit les choses de façon légère, en fait, c'est-à-dire profonde, mais très agréable. Il dit que quand dans la Haggadah, vous souvenez, le quatrième fils, c'est celui qui est présenté comme étant « Sheino Yodé Alishol », celui qui ne sait pas poser les questions. Et là-bas, c'est marqué « At Petachlo ». Toi, tu dois l'ouvrir. Et le Khadam Sofer demande pourquoi est-ce qu'on a mis « At » plutôt que « Ata ». Pourquoi est-ce qu'on s'adresse à la mère ici ? Pourquoi c'est le féminin en réalité ? Alors, lui, il explique comme ça. Il dit, toute l'année, ce qui est recherché, c'est qu'on ne parle pas trop. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, « Seyag la chokhma shtika ». C'est-à-dire, la bonne barrière qui permet d'accéder, de garder la chokhma, c'est de se taire. L'exception, c'est la nuit de la Geoula, cette nuit-là, cette nuit de Pessah. Là, il y a une mitzvah au point que non seulement on va parler, mais on va dire Vechol amarbe le saper. Plus on en raconte de cette sortie d'Égypte, plus Arezé Meshubach, plus on est digne d'éloge, en fait. Et c'est ça le At Petachlo. C'est-à-dire ici, l'homme, il a l'obligation de parler beaucoup. Bon, alors, je ne vous cacherai pas que c'est pour ça que c'est dit en féminin, parce que certains pensent que les femmes parlent plus, etc. Bon, c'est jamais qu'un facteur neuf, hein, c'est marqué, il y a 10 mesures de parole, qui sont descendus dans le monde et les femmes en ont pris 9. Bien, alors on ne va pas s'étendre plus longtemps, d'autant plus que c'est moi qui parle pour l'instant. Donc en tout cas, ici, on présente le fait d'en parler beaucoup comme étant justement, c'est ça le tikkun de la Geoula. C'est-à-dire il s'agit de la libération, c'est la libération de la parole. Et c'est ce que vous connaissez évidemment, parce qu'on dit toujours que Pesach, si on sépare la lettre P et les deux lettres Samechet à la fin, donc ça veut dire Pesach, la bouche parle. Donc c'est ça la... Dans le nom de Pessah, il y a cette idée de parler, je veux dire. Il s'agit d'en parler. L'idée de que le rechouche, ce soit des kélim d'or et d'argent et d'or, pour les prendre dans l'ombre. C'est une façon de dire que ces kélim, ces ustensiles, qui sont les ustensiles égyptiens, qui sont maintenant dans les mains d'Israël, ils vont les utiliser pour le service d'Hachem. Et quand Paro avait proposé à Moshe Rabbeinu, écoutez, allez là où vous voulez aller pour servir votre Hachem, mais laissez vos troupeaux ici. Alors Paro a dit, Moshe a répondu à Paro, il lui a dit, non, nous ne savons pas du tout ce qui va nous être demandé, mais finalement, même toi, tu vas donner de tes troupeaux pour servir Hachem. Donc il y a une idée que les kélim, les ustensiles de l'Égypte, ces kélim qui ont en eux quelque chose de ces fameuses étincelles. Parce qu'on a pris, sortir les kélim, c'est aussi sortir toutes les étincelles. Il y a des étincelles qui peuvent être sorties par des personnes qui se convertissent. Et puis il y a des étincelles qui pouvaient, en tout cas dans l'Égypte, c'était le cas, sortir. Être récupéré quand on récupérait les kélim dans lesquels se trouvaient ces étincelles prisonnières, en fait. Ça veut dire que cette libération des étincelles qui étaient dans ce qu'on appelle Ervat Haaretz, Ervat Eretz Mitzrayim, Ervat Tumat Mitzrayim, dans les failles. La Erva, c'est les failles. Les failles de l'Égypte, en fait. Mais justement, dans ces failles, dans ce Galout Mitzrayim, il y avait des failles dans la culture égyptienne. Et dans ces failles-là se trouvaient ces fameuses étincelles qu'il fallait aller chercher. Et effectivement, on a dit à Paro qu'on allait prendre aussi des choses que lui allait donner pour servir Hachem. Et donc les Bnei Israël sont, comme Chazal le disent, ils sont sortis d'Égypte et il y a un interdit de retourner en Égypte parce qu'on n'a plus rien à chercher en Égypte. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont pris toutes les étincelles de l'Égypte. L'image étant, c'est comme... s'ils avaient sorti tous les poissons de la nasse, et on laissait la nasse, mais il n'y a plus un poisson. Alors, tout ça, évidemment, ça va se marquer dans les mitzvot de Sipuri et Siat Mitzrayim, de la nuit de Pessah. Paro, quand il avait dit au Bnei Israël, mais vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur, apportez vos korbanot et faites-les ici en Égypte. Alors Moshe lui avait dit, mais est-ce que tu t'imagines que nous allons faire la shrita des animaux sacrés en Égypte et qu'ils ne vont pas nous lapider? Ici, les Bnei Israël, quelque part, ils ont reçu l'ordre de faire. Après que Moshe a dit qu'on risquait d'être lapidé si on le faisait, mais maintenant ils reçoivent quand même l'ordre, comme on a vu le jour de dans le jour sur Parshat Achodesh, le premier Nissan, Hachem a donné l'ordre au Bnei Israël, le 10 Nissan, on leur a dit comme ça, le 10 Nissan, vous allez vous procurer un agneau ou un cabri, et vous allez l'attacher au montant de votre lit pendant 4 jours. Et quand les Égyptiens vont vous demander, mais à quoi vous jouez, vous allez leur dire, on se prépare. Donc, il y a une espèce de provocation pendant 4 jours, on va les narguer en leur disant, on va faire la shrita de vos animaux sacrés. Alors, c'est le fameux Mishru Kru, ça veut dire en vérité, retirez-vous de l'idolâtrie et marquez clairement que vous ne participez plus à l'idolâtrie égyptienne puisque vous allez faire la shrita des idoles égyptiennes. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, effectivement. Donc, on voit ici cette idée qui mimenu nikach la volet Hashem Elokeinu. On va prendre de ce qui est à vous, c'est quasiment vos idoles. Et donc, c'est pour ça que la sortie d'Égypte, ou même avant, même le Galout lui-même en Égypte, est un point central, effectivement. Dans l'histoire et dans le devenir du peuple juif, en fait. La Torah, comme vous savez, n'a été donnée qu'à ceux qui étaient à des gens qui venaient de sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'Hachem, quand il se présente au début de la Seret HaDibrot, il ne dit pas, comme s'en étonne le Rabbi Yehuda Halevi, par exemple. Le Rabbi Yehuda Halevi, il dit, Hachem, il aurait dû se présenter, Anochi, Hachem Elokecha, Asher Bara, et Olam Kulo. Je suis Hachem, ton Dieu. J'ai créé le monde entier. Or, Hachem ne se présente pas comme ça. Il dit, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui est plus grand? Créer le monde entier ou sortir les Bnei Israël d'Égypte? Alors, on peut dire, il s'est présenté aux Bnei Israël en leur disant quelque chose qui les concernait. Il se présente à eux, parce qu'il leur dit, voilà, vous êtes sortis d'Égypte, c'est moi qui vous ai sortis d'Égypte. S'il leur avait dit, moi qui vous parle maintenant, je suis le créateur du monde, ça dit rien à personne. Personne n'était là pour voir, c'est très très abstrait. Bon, c'est ça qu'on peut donner comme explication, si vous voulez. Mais on comprend bien que ce n'est pas seulement ça. D'accord ? C'est parce qu'il y a ce problème de tout ce qu'on apprend, de ce rechouche gadol. Même si on le lit, comme voulant dire les kélim en argent et en or. Maintenant, on peut évidemment se demander comment ces kélim en or et en argent peuvent bien être une compensation pour ces années de torture et d'esclavage. Bon, on retrouve les grands problèmes qu'il y avait eu sur lesquels on ne va pas reparler maintenant, mais sur les fameuses réparations de guerre, enfin les Wiedergutmachung des Allemands qui voulaient payer pour remettre, comme le terme le dit, pour refaire bien les relations entre les Allemands et les Juifs. Redeviennent au beau fixe, quoi. Parce que les Allemands vont payer. Et comme vous savez, ça fait une grande discussion dans le plan Israël. S'il fallait bichlal accepter ces compensations. Mais ici, ce recouche, là, comment il peut, comment est-ce que ce recouche peut apparaître comme étant quelque chose qui va compenser les souffrances en question? C'est incompréhensible. Qui va marcher dans une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? On peut penser que, bien sûr, le recouche gadol dont on parle, concrètement, ça peut être ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, on a déjà vu un peu que ce qu'il y avait derrière, le recouche gadol, c'est quand même justement la récupération des nitsutsot égyptiennes. Et comme l'Égypte, c'était une espèce de centre du monde culturel, en tout cas, du point de vue culturel, alors on a récupéré l'essentiel des étincelles au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est ça le vrai recouche. C'est ça le vrai butin. On a quelque chose qui, alors c'est, on ne voit pas directement la compensation mais de la souffrance, mais on voit qu'on a quelque chose d'énorme, qu'on a gagné avec tout ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait en passer par là? On n'en a pas parlé du tout pour l'instant. C'est pourquoi il fallait passer par là? Pourquoi est-ce que la chaîne ne pouvait pas, organiser un congrès en Égypte et là, on fait connaître les valeurs juives et la conversion, elle s'entendra de la même manière. Bon, elle sera aussi efficace, elle permettra aussi de récupérer les étincelles qui sont chez les personnes. Et éventuellement, à ce moment-là, il y aura peut-être des cadeaux, je ne sais pas quoi, des choses qui vont circuler, des objets qui vont circuler, qui seront éventuellement eux aussi chargés de ces fameuses nitsutsot, ces fameuses étincelles. Et on récupère. Pourquoi ça ne peut pas se faire en douceur? Pourquoi ça devait se faire en situation d'exil et même d'esclavage et de torture même? Alors, on peut dire, voilà, c'est étincelle. On peut aussi se dire, un peu ce que je crois, je vais répéter un peu ce que j'ai déjà dit au Shir de Chumash en son temps. J'avais expliqué que cette idée d'emprunter auprès du prochain, de la prochaine, quoi que ce soit d'ailleurs, le Gaon de Vilna, il dit que c'est impossible de le dire comme ça. Tout simplement parce que jamais dans la Torah, un réa, le prochain, est un goy. Le mon prochain, c'est un juif. Et donc, il ne s'agit pas d'emprunter, d'après le texte, il s'agit d'emprunter auprès des Bnei Israël et pas d'emprunter auprès des goyim. Alors, je vais essayer d'expliquer, et je crois que c'est ça le sens de ce que dit le Gaon, c'est que ce qu'il y avait comme problème essentiel pour la sortie d'Égypte, il y a deux problèmes. Il y a un problème, c'est que le premier problème, c'est que les Israélites n'ont aucun mérite en Égypte. Et n'ayant aucun mérite, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte. Il faut qu'ils aient un tout petit mérite. C'est comme s'il y avait un processus de bracha, de bénédiction. Bon, Hachem va amplifier ses mérites. Il va les valider au-delà de leur peut-être de leur vraie valeur. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Or, il n'y a rien. Alors, on avait dit, Akadosh Baruch Hu a donné aux Israël les fameuses deux mitzvot qui ont à voir avec le sang, parce que Paro avait dit qu'ils avaient le sang, vous vous souvenez, ils ont le sang, c'est-à-dire le sang de la mort, dans leur thème astral. Alors, on traite la chose avec un sang de vie qui est le sang à la fois de la Mila et le sang du Korban Pessah. Donc avec ça, ils ont ce problème-là. Maintenant, le problème pour fabriquer un peuple, il faut là aussi un minimum. Or, les Bnei Israël, quand ils étaient esclaves en Égypte, chacun était pour soi, parce que ils en étaient à chercher leur souffle, comme le passage dit. Chacun était en train d'essayer de survivre, il n'était pas capable de s'occuper du voisin. Alors il a fallu que Hachem fabrique des relations artificielles. Et les relations artificielles, ce sont celles qui résultent justement du fait. Vous allez emprunter de vos voisins. Alors, est-ce qu'ils avaient de l'or et de l'argent? Vous allez donner des choses précieuses. Peut-être qu'il y avait de l'or et de l'argent. De toute manière, la situation des Bnei Israël dans cet exil est un peu particulière parce qu'ils sont exilés, ils travaillent, etc. Mais ils ont des troupeaux. Ils ont à Goshen des troupeaux très importants. Donc, c'est-à-dire, ils sont, d'une certaine manière, ils sont très riches. Ça ne les empêche pas de devoir travailler. Mais c'est pas une pauvreté matérielle. Ils n'ont peut-être pas accès, mais en tout cas, ça leur appartient. En tout cas. Et peut-être que dans l'année durant laquelle ils ne travaillaient plus pour Paro, parce que durant la période des Makot, ils ont cessé de travailler pour Paro, alors peut-être qu'ils pouvaient avoir accès à leur possession. Ça, je ne sais pas exactement dans le détail.
Qui est-ce qui s'occupait de leur troupeau? Tout le monde était...
C'était la tribu de Lévi n'était pas soumise à l'esclavage, mais c'est très possible que Paro avait ordonné que des gens s'occupent des troupeaux. C'est possible. Ça faisait aussi partie. Il y avait aussi des esclaves qui étaient peut-être en charge de s'occuper des troupeaux. Et alors, ce qui s'est passé, justement, c'est que ils se sont empruntés les uns les autres. Ça a fabriqué un tout petit peu des embryons de relations entre les gens. Parce que s'il n'y a aucune relation entre les gens, il n'y a pas de peuple. Et s'il n'y a pas de peuple, il n'y a rien à sortir d'Égypte. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu à l'époque de Pourim. Aman, lui, il disait, ils sont Mefourad, Mefouzar, Benahamim. Les gens sont complètement isolés les uns des autres, ils n'ont pas de contact. Lui, il voulait dire, on pourra les tuer, il n'y aura pas de problème. S'ils étaient tous au même endroit, ça ferait beaucoup de bruit. Mais là, on va les tuer, ça va passer inaperçu. Mais dans le monde d'en haut, quand l'accusation, ils sont isolés les uns des autres, etc., c'est une vraie accusation, il n'y a pas de peuple. Et c'est ça le génie, si on peut parler comme ça, d'Esther. Le premier mot qu'elle a dit quand elle a pris en charge la sortie d'Égypte, la sortie de l'histoire de Bourim, elle a dit à Mordechai, rassemble, Knos, rassemble tous les Yehudim, rassemble tous les Juifs de là. C'est-à-dire justement fabriquer artificiellement des liens entre les gens. Et c'est ça, me semble-t-il. Ça, c'est le grand butin, en quelque sorte. Le grand butin qui sort, c'est que les Bnei Israël, grâce à ça, sont devenus un peuple. Ils sont un embryon de peuple. Quand ils vont sortir, ils sont toujours un peu plus peuple, mais pas encore. Ils ne deviendront peuple qu'au pied du Sinaï. Mais pour sortir d'Égypte, il fallait qu'il y ait cet embryon. De même qu'il fallait qu'il y ait deux mitzvot pour que ça puisse commencer, il fallait aussi qu'il y ait un embryon de relation entre les gens pour fabriquer un embryon de peuple. Ça, c'est de nouveau Et je crois que ça, c'est vraiment un butin. Ça, on comprend bien que c'est un butin. Et l'idée est que lui aussi, comme Hachem a dit à Paro, toi aussi, tu vas donner. C'est pas simplement qu'il va donner ses troupeaux, etc. C'est que lui aussi va y participer. Pourquoi? Parce que quand les Égyptiens qui vivaient au même endroit, on voit très bien la description dans l'histoire de Makat Bechorot, que les Égyptiens et les Israël vivaient ensemble, je ne sais pas comment, mais bon, ils vivaient ensemble. Donc les Égyptiens ont vu que la société, l'embryon société qui se crée grâce à ces relations était quelque chose d'agréable, ben ils se sont dit, ben nous aussi, on va en être. Et eux aussi, ils ont à ce moment-là, mais sans qu'on les ait demandé, ce sont eux qui sont venus et qui ont donné ce qu'ils avaient, eux aussi, pour entrer dans, dans la circulation des relations. Et du coup, il y a eu des choses qui ont effectivement été prêtées et qui ont peut-être été certaines ont été rendues, puis ensuite d'autres n'ont pas été rendues, etc. Et ce qui a donné le fameux butin d'or et d'argent au moment de la sortie d'Égypte. Maintenant, cette histoire du butin, il a, enfin, de richesse qui sort de, qui est sortie d'Égypte, en fait. Il a aussi une autre source.
S'il vous plaît, Rav. Pourquoi ça ne passe pas par une mitzvah si on doit former un peuple? Il nous a bien donné l'ordre de la Mila et du Korban Pessah pour sortir d'Égypte. Pourquoi ce n'est pas aussi explicite?
Alors, ce n'est pas une mitzvah, mais c'est quelque chose qu'il a demandé au Bnei Israël de vouloir le faire, parce que fabriquer un peuple, si vous voulez, c'était pas une... Faire des gestes, on peut prescrire les gestes. Mais fabriquer un peuple, c'est pas seulement question de gestes. Les gestes en question, il faut les inventer, c'est ce qu'il leur a dit, emprunter, s'il vous plaît, mais le but de l'exercice, c'est pas d'emprunter. Le but de l'exercice, c'est de créer ces relations. Et là, il fallait que les Bnei Israël comprennent. Aussi, on leur a demandé de bien vouloir le faire, parce que ça doit venir d'une certaine manière d'eux, même si c'est terriblement téléguidé. Mais ça doit venir d'eux, parce que le peuple, il ne crée. On ne peut pas obliger les gens d'avoir des relations. D'accord ? Si les gens n'en veulent pas, même si vous leur dites, vous devez faire ce geste-là, ils vont faire le geste, mais ça ne créera rien du tout. Le but de l'exercice, c'est qu'ils comprennent que c'est intéressant. Et on peut même entendre que quand Hachem dit à Moshe, il dit, s'il te plaît, parle-leur, c'est-à-dire comme si Hachem était demandeur, il n'est pas seulement demandeur pour accomplir sa parole, parce que ça, c'est presque incompréhensible, d'accord, qu'il ait besoin de cette justification pour faire ce qu'il a à faire, mais parce qu'il demande au Bnei Israël, comme il leur demande, faites quelque chose pour que je puisse vous sortir. Fabriquer un embryon de peuple par ce biais-là. Alors, je pense que ça pouvait pas être complètement prescrit, parce que, comme vous dites, justement, la Mila, on peut prescrire, parce que tu fais ce geste-là, bon, tout. Et puis ensuite, tu fais les gestes qui vont avec le Korban Pessah. Bon, c'est des gestes, on peut prescrire les gestes, et on peut dire, quand on a fait les gestes, on a pratiquement tout fait. Tandis que là-bas, c'est le but, les gestes en question étaient vraiment pas du tout, c'est seulement le moyen. Alors ça, on leur a suggéré ce moyen-là, parce qu'effectivement, il n'y en avait probablement pas beaucoup d'autres pour fabriquer des relations, puisque les gens étaient trop occupés à survivre pendant si longtemps, que même l'année où c'était probablement moins difficile, ils n'avaient pas pris le pli de faire de vraies relations. Donc Hachem a voulu que ce soit leur initiative, donc il leur a souffler en quelque sorte, comme on souffle à un enfant quand on veut qu'il fasse quelque chose, etc. On pense que c'est peut-être mieux de ne pas le lui ordonner, mais de le suggérer. Voilà, il y a cette suggestion-là. C'est comme ça que je comprends en vérité. Alors, il y a une gemara très importante, surtout dans un cours comme celui-ci, qui dit que Darash Rav Avira, il a dit, c'est une gemara dans Maseret Sota, il a dit, Bishar Nashim Tzadkaniot, Shayu Beoto Ador, Nigalu Israël Mimitzraim. Par le mérite de femmes Tzadkaniot, j'étais peut-être pas toutes comme ça, hein, mais en tout cas, les femmes qui étaient Tzadkaniot, dans cette génération-là, grâce à leur mérite, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Nigalou Israël Mimitzraim. C'est leur salaire, leur srar. Et alors la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait de si extraordinaire pour être appelée Nashim Tzadkaniot? En quoi est-ce que c'était Tzadkaniot? Alors la Gemara raconte que lorsque les femmes qui étaient en charge, les hommes devaient travailler, et les femmes, dans leurs travaux, il y avait aussi d'aller puiser de l'eau. Quand elles allaient puiser de l'eau, quand je vous confessais que dans leur seau, il y avait 50% de petits poissons et 50% d'eau. Donc elles puisaient cette moitié-là. Et quand elles arrivaient, elles mettaient deux marmites, une marmite pour avoir de l'eau chaude, et une autre marmite dans laquelle on cuisait les fameux poissons en question. Et puis elles amenaient cette nourriture à leur mari qui était sur les chantiers, dans les champs. Elles les lavaient, l'ingénieur lavait les pieds, etc. Elle leur donnait à manger, leur donnait à boire. Et puis elles avaient des rapports avec eux dans les buissons, sur les chantiers, mais évidemment elles se cachaient. C'est marqué « Im tishkuvun ben svatayim » si effectivement vous vous couchez au milieu, disons, des bosquets, etc. Alors c'est marqué « Kanfeyona nepar kesef vevrotea virakrak raouts » Alors on dit « Bisrar » par le mérite du fait que vous avez eu des relations conjugales de cette manière-là avec vos maris, les Bnei Israël ont mérité le butin de l'Égypte. C'est marqué quand Feyona n'est pas Kesef. Donc ça veut dire ici, il y a une transformation des ailes de la colombe qui deviennent de l'argent. Enfin, il y a cette transformation. Elles ont fait en sorte, elles sont la source de la bizat Israël, c'est-à-dire justement du butin de l'Égypte. Ça veut dire que les femmes étaient prêtes à se sacrifier, à passer par-dessus les difficultés que ça comportait. Elles ont assuré la préservation du peuple juif. Et les hommes, elles avaient interdiction de rentrer chez eux parce que les Égyptiens voulaient éviter que l'explosion démographique continue. Donc les Bnei Israël qui étaient dans le Homer et le Vénim, ils étaient dans l'argile et dans le je sais pas quoi ou la terre, les pierres. Et en fait, ils n'étaient pas du tout capables d'avoir des relations. Les hommes étaient complètement défaitistes parce qu'ils étaient épuisés complètement. Et donc il n'y avait même plus d'espoir, le kotser ruach, c'est-à-dire il n'y avait plus le souffle, mais il n'y a plus d'esprit non plus. Et donc, cette situation-là mettait vraiment le clan Israël en danger. Et à ce moment-là, les femmes ont pris les choses en main. Elles sont passées par-dessus les problèmes de tzniout et de la tzniout à laquelle ils avaient l'habitude d'obéir, en quelque sorte. Elles sont venues dans les champs, etc. Elles ont fait tout le job qu'il fallait pour que les maris soient capables d'avoir des relations avec elles. Donc, cette Messirut Nefesh, en réalité, elle était telle que si elle ne l'avait pas fait, alors on peut pratiquement imaginer que, enfin, c'est le pire, mais les Bnei Israël n'auraient pas. Il n'y avait plus de clan Israël, il n'y avait plus personne. Cette génération-là, elle ne serait jamais sortie d'Égypte, il n'y avait personne. Seulement, jusque-là, les Chachamim sont allés à dire que le mérite, c'est parce qu'elles se sont. Ils ont eu des relations conjugales, ben svatayim, c'est-à-dire sur les chantiers, littéralement. Alors, ça a entraîné Bizat Mitzrayim. Ça a entraîné le fameux butin de l'Égypte. Évidemment, on ne comprend pas du tout en quoi ce sacrifice des femmes entrait à avoir avec le butin de l'Égypte. A priori, on ne voit pas très bien le lien, a priori. Ce qui surprend aussi un peu dans la formulation des Rahamim, c'est que au début, ils ont commencé par dire Bisrout, par leur mérite, Nigalo Israël Mimitsraïm. Les Bnei Israël ont été libérés de l'Égypte. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont eu le butin de l'Égypte. C'est pas la même chose. D'accord? Tu commences par dire, grâce à elle, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Après, tu dis, grâce à elle, les Bnei Israël sont sortis avec le butin de l'Égypte. C'est évidemment, cette histoire du butin, c'est un élément, mais enfin, c'est seulement un petit élément, a priori, par rapport à la sortie d'Égypte elle-même. Comment ça se fait que les Rahamim commencent à parler d'une manière et puis ils terminent de cette autre manière? Alors peut-être les Rahamim nous ont ici dit quelque chose sur ce fameux Rechush Gadol, sur ce fameux butin que les Bnei Israël ont pris quand ils sont sortis d'Égypte. On veut dire ici que d'une certaine manière, dans ce butin-là, dans ce recouche, c'est l'expression de ce que les Bnei Israël ont atteint le but de ce processus d'exil, de galout. Parce que s'il n'y avait pas ce butin-là, les Bnei Israël n'auraient pas pu, il n'y avait pas de quoi être libéré. Et donc leurs femmes, enfin les femmes de Sainte Cagnotte de l'époque, qui leur ont permis en quelque sorte d'être à la hauteur, elles ont apporté l'élément nécessaire pour la Géoula, c'est vrai. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit qu'elles ont apporté la sortie d'Égypte. Et comment est-ce que ça s'est concrétisé? Après, on a vu, bon, c'est la Bizat Mitzrayim, c'est-à-dire quand on est sorti d'Égypte, c'est comme si on avait le concentré intéressant d'Égypte, on a pu le sortir. Et le but de sortir d'Égypte, ce n'était pas seulement d'accéder à la liberté. Si on était sorti d'Égypte sans ce butin-là, bon, sans cet élément de fabrication du clan Israël, sans cette qualité de relation, etc., ça ne servait absolument à rien. En vérité, on ne serait même pas sorti pour autant. Pour ça, on ne sort pas. De la même manière que s'il n'y a pas le Knosset Kol HaYehudim, on ne s'en sort pas de la solution finale version Amman. Bon, donc, ce qu'ont fait les femmes, elles ont sorti les Bnei Israël, elles ont permis aux Bnei Israël de sortir d'Égypte. Et sortir, ça voulait dire sortir avec le fameux butin. Mais le butin n'étant pas de l'or et de l'argent, le butin, c'était justement les éléments qui vont permettre au clan Israël d'exister comme tel. Jusque-là, sinon, le clan Israël, il n'existait pas, il n'aurait pas pu exister du tout. Alors on dit dans la Haggadah, Vehi she'amda l'avoteinu, et cette promesse-là, c'est elle qui avait donc été faite à nos ancêtres, mais elle a tenu pour nous aussi. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que dans toute notre histoire, il y a eu sans arrêt, dans toutes les générations, des gens qui voulaient nous détruire. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de leurs mains. C'est-à-dire, Hachem nous a sauvés comme il a sauvé le clan d'Israël, quand Paro voulait détruire le clan d'Israël. Oui, il ne voulait peut-être pas obligatoirement détruire tout le monde, mais il voulait les assimiler complètement. Il aurait détruit la notion de clan d'Israël. Si on assimile tout le monde, si tout le monde s'assimile, c'est qu'ils sont déjà à 80%. assimilé à 80%. Donc, il n'y avait plus beaucoup à faire pour qu'il n'y ait plus personne pour sortir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est sorti prématurément. C'est dit en termes de, on était au 49e degré d'impureté, etc. Si on avait franchi le pas suivant, on serait, bon, c'est tout. Ça veut dire quoi? Si le pas suivant, c'était une assimilation totale. Donc, il y avait que les Égyptiens. Les gens étaient, bon, il n'y avait plus personne à sortir. Donc, il a fallu que les femmes prennent sur elles et obligent les Bnei Israël à résister, en fait. Oblige les hommes à participer à la construction de la génération là, qui va sortir, pas à l'état adulte encore, mais ceux qui, effectivement, vont sortir et qui vont assurer la pérennité de l'espèce, du peuple juif, en fait. Et donc, c'est une question permanente. C'est aussi cette idée-là que « Chol dor vador omdim aleinu lechaloten ». Ça veut dire que le peuple juif n'est pas un peuple assuré de son existence. Il est assuré d'une promesse d'existence. Et vu du côté de l'égoïm, il y a une tentative permanente de détruire le clan Israël. Donc on est sans arrêt ramené à cette situation-là où Hachem nous sort, où on n'existe pas. On ne peut pas, par nous-mêmes, on n'a pas la force d'exister. Il faut qu'à chaque fois que le Jbokhou nous sauve. Alors des fois, c'est plus ou moins visible. Enfin, c'est des fois plus ou moins visible. Mais c'est toujours là. C'est toujours, il y a toujours cette promesse qu'Hachem avait faite à Avraham Avinu. Nous aussi, c'est-à-dire, la promesse a été faite à Avraham Avinu, mais nous, on bénéficie également de cette promesse en permanence. Et comme une espèce d'illustration de ce qui vient d'être dit, on rapporte « Seulmad mabikesh lavana arami l'insot le Yaakov Avinu » Chez parole au Gazar et à la Sraharim, Vélavan, Bikesh, l'accord est à col. C'est-à-dire que ça a commencé même bien avant l'Égypte. La tentative d'empêcher le clan d'Israël de se construire, d'accord, elle est déjà, quand il s'agit d'empêcher Yaakov de faire son travail. Empêcher Yaakov de faire son travail, c'est-à-dire empêcher Yaakov de construire, de mettre en place les fameux 12 tribus. Lavan, après tout ce qui s'est passé, quand il rattrape Yaakov qui s'était enfui, il lui dit « Mais tout est à moi ici. Tu n'existes pas. Les femmes sont mes filles, tes enfants, c'est mes enfants. Tout est à moi, tout ce que tu as est à moi. » C'est moi qui t'ai fait. Tu n'es rien d'autre que ce que j'ai voulu faire de toi. Alors, il y a ce fameux texte d'Arami Ovedavi qui se lit de plusieurs manières. Certains disent que l'araméen en question, c'est Lavan, un arami. Il a voulu perdre mon père. Mais finalement, Yaakov il est descendu en Égypte. C'est ce qu'on a dit avant, que Esav, on l'a désintéressé. On lui a donné le pays de Seir. Et Yaakov ou Banav, Yardou Mitzrayim. C'est-à-dire. Finalement, Yaakov il est descendu en Égypte. Il a fait ce qu'il devait se faire. Alors, il est descendu en Égypte, Yaakov, mais à son corps défendant, Alpi Adibour, Il en a reçu l'ordre, la parole. Hachem, lui, ne voulait pas descendre. Il n'est pas, d'ailleurs, tout de suite, il a dit, on descend, mais on va remonter. Ils ont dit à Paro, la gourbe arrête, ben non. On est venu juste habiter provisoirement dans ce pays parce qu'il n'y a pas de pâturage pour nos troupeaux. Donc, maintenant, s'il te plaît, laisse-nous résider dans le pays de Goshen le temps que la famine passe. Ensuite, on va partir. Et alors, Hachem ne m'a pas laissé faire. Ça ne s'est pas passé comme il le pensait. D'accord, il est mort, puis ensuite tous les fils sont morts, Yosef, etc. Et puis après, l'exil, l'esclavage a commencé. Ils ont 86 ans d'esclavage, c'est beaucoup. Alors, ce qu'on dit ici tout de suite, c'est qu'il est descendu, Jacob est descendu, Béchimil n'a fait. Ils sont 70 personnes à descendre en Égypte. Et maintenant, ils sont devenus, bon, dans l'image de comme les étoiles du ciel, mais en fait, ils sont devenus un peuple. Et où est-ce qu'ils deviennent un peuple? Alors, c'est assez curieux parce que leur devenir un peuple, tel qu'il est décrit ici, c'est qu'ils étaient singularisés en Égypte. Singulier. Alors, c'est quoi exactement leur singularité? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient on a l'impression que leur singularité, c'est qu'ils sont devenus très très grands. Bon, c'est-à-dire, ils sont devenus Gadol, Atsum, Barav. Donc ça, c'est une singularité. C'était un peuple qui était avec une croissance démographique absolument folle à l'intérieur de cette Égypte. Donc, il faut expliquer. Bon, on ne peut pas faire tout ça maintenant. Ce que vous voulez dire, effectivement, Gadol, Atsum, Rav, grand, puissant, nombreux. Bon. Et puis le problème, Batimalea Aretz Otam. Normalement, les Bnei Israël, sur l'ordre de Yosef, c'était vous installez à Goshen et vous n'en sortez pas. Vous n'allez pas vous mêler avec les Égyptiens. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, ils n'ont pas obéi. Vatimalea Aretzotam. Le pays d'Égypte, était plein d'eux. C'est-à-dire, on les voyait partout. Et c'est devenu rapidement insupportable pour les Égyptiens. Et du coup, les Égyptiens, ils ont essayé de se défendre, ils ont commencé à leur faire du mal, à faire souffrir, etc., à leur faire des travaux absolument débiles. Et puis ensuite, il y a eu ce fameux tour de vis supplémentaire, vous vous souvenez, on a parlé de ça. Quand Moshe Rabbeinu est intervenu, la situation des Bnei Israël s'est aggravée, au grand dam de Moshe Rabbeinu. Mais en fait, c'est ça qui a permis que Vanitsak et l'Hachem Elokei Avoteinu. Nous avons crié en direction d'Hachem, le Dieu de nos pères. Alors, c'est intéressant parce que c'est présenté, nous avons crié vers Hachem, le Dieu de nos pères. Et on apporte un verset chez Neymar, et qu'est-ce que dit le verset? Vayi bayamim arabim haem, vayamot melech Mitzrayim, le roi d'Égypte est mort, Vayandru bnei Israël min avoda. Les bnei Israël n'en pouvaient plus de leur travail. Vayzaku, et ils ont crié, Atah Shavatam, El Elohim min avoda. Et leur cri est monté jusqu'à Elohim au milieu de leur travail. Vous voyez, ce n'est pas marqué dans le verset qu'on apporte comme preuve, ce n'est pas marqué Vaïzaku et l'Hachem. C'est seulement marqué Vaïzaku. Ils ont crié. Ensuite, ce cri-là, il est monté vers Hachem. Mais pas qu'il était destiné à monter. C'est Hachem, on a l'impression que Hachem a validé ce cri-là comme si c'était un cri vers lui. En fait. Mais en fait, ce qu'ils ont crié, c'est on n'en peut plus. On n'en peut plus, grâce. Ils ont crié grâce. Ils ont crié qu'on n'en peut plus. C'est Moshe Rabbeinu, je vous ai dit, dans le Sefer Dvarim, quand Moshe Rabbeinu le rapporte, il dit qu'ils ont crié vers Hachem. Mais le texte ici que nous avons, nous maintenant, devant nous, il dit seulement qu'ils ont crié. Et ensuite, c'est monté vers Hachem. Mais ce n'est pas qu'ils ont crié vers Hachem. Les commentaires, ils disent, il y a un midrash qui dit la Vaïzaku Atsaka Haïta Stam. Le cri, c'était un cri, simplement un cri. Les Égyptiens, ils ont cru que c'était des cris pour. Ils souhaitaient la mort de Paro. Ce n'était pas qu'ils voulaient la mort de Paro, c'est qu'ils n'en pouvaient plus du travail. Et du coup, après, c'est marqué Vaishma Hashem et Koleinu. Alors, où est-ce qu'ils sont? Nous, quand on dit Shema Koleinu dans la Tfila, on demande à Hashem d'écouter notre prière, en fait. Notre voix, c'est la voix de notre prière. Donc ici, on a. Kadosh Baruch Hu écoute quelque chose qui n'est même pas encore complètement formulé. Parce que là, de nouveau, le verset dit Vaishma Elohim et Nakatam, Vaiskor Elohim et Britot, Abraham et Yitzhak et Yaakov. Donc ce qu'il a, Elohim a entendu, mais ce n'était pas dirigé vers lui. Donc c'est toujours cette fameuse idée que tout ce qui se passe en Mitzrayim, c'est parce que ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui n'arrête pas de pousser les bénis Israël à aller dans le bon sens, en fait. Même si, pour l'instant, ils n'y vont pas encore vraiment. Alors, Hachem va s'occuper et il va sortir les bénis Israël à cause de Brito. Quand je beaucoup se souviens de son alliance. L'alliance, c'est le fameux Vehi She'amda la voté Nouvelano, dont on a parlé. C'est ce qui. Ce que je vous ai dit, ce qu'on a dit tout de suite après Shomer Aftachato, Veishe Amda Lavotin Velanu, qui dit que c'est pas une seule personne qui a voulu nous faire du mal, mais que dans chaque génération, les gens se lèvent pour nous faire du mal. Enfin, pas du mal, il faut dire les choses, pour nous détruire, le Khalotin. Ils veulent nous détruire. Alors, cette volonté de destruction, elle n'apparaît pas toujours clairement. Parce qu'il y a des fois, on peut vouloir détruire quelqu'un en l'assimilant positivement. Certains disent que c'est ce qui se passait justement en Espagne. Pourquoi il y a eu cette réaction? Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Isabelle de Castille, c'est Torquemada, enfin bref, c'est Sonné Israël, effectivement, se réveille. Quoi. Mais parce que les Bnei Israël étaient arrivés très très haut dans la société espagnole. Alors, même si après ils ont fait la théorie du sang, etc. Mais bon, il y avait quand même des ministres. Abravanel était ministre des Finances de l'Espagne. Il y avait beaucoup de gens très bien placés, mais complètement assimilés. C'est tellement assimilé que quand il y a eu la menace, quand c'était, il fallait partir ou se convertir, quelqu'un m'avait expliqué que historiquement, on sait qu'en tout et pour tout, il y a deux rabbins qui ne se sont pas convertis. Tous les autres rabbins se sont convertis. Pour la forme ou pas, mais en tout cas, ils sont tous convertis. C'est Albo et un autre encore, je ne me rappelle plus qui c'est, qui eux ne sont pas convertis. Mais sinon, tous les autres, tellement c'était assimilé. Alors, il y a tout le récit de différentes étapes, etc., et de comment, et jusqu'au moment où on va énumérer effectivement la réaction, les makotes, avec dites de façon concise, « Detzach Hadash Barachav », et ensuite le nombre, l'histoire des makotes sur la mer, qui sont plus nombreuses que celles sur terre. D'accord, il y a toujours ce fameux facteur 5 entre les makotes qui ont été données au passage de la mer, qui étaient 5 fois plus nombreuses que les makotes en Égypte, en Israël. Et donc, ça, on n'a absolument aucune trace de ces makotes, absolument aucune. D'accord, les plaies d'Égypte, on les connaît, mais les plaies 5 fois plus nombreuses au passage de la mer, on n'en a pas trace, seulement aucune trace. C'est assez intéressant parce que, au fond, c'est construit toute cette histoire de 5 fois plus, etc. C'est une construction à partir du texte. Et puis ensuite, justement, il y a un travail pour faire apparaître que les makot elles-mêmes étaient divisées. Chaque fois qu'on parle d'une des makot, en vérité, c'était une pluie de makot en même temps qui était là. Et on dit justement, toujours avec un facteur 5 pour montrer combien il y avait d'énormes en des choses énormes au passage de la mer, mais on ne connaît pas les makotes en tant que telles. On sait bien que l'armée égyptienne était complètement détruite, noyée, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé qui peut être appelé une maka comme les makotes en Égypte. Et ensuite, on arrive à ce Rabban Gamliel, mais je crois qu'on avait parlé de ça la première fois, Rabban Gamliel qui dit que bien sûr, il y a tout un récit de la sortie d'Égypte à faire, mais il y a des points fondamentaux et il faut absolument avoir mentionné ce soir-là, il faut mentionner les 3 points de Pessah, Matzah et Maror et expliquer aussi ce que sont Pessah, Matzah et Maror. C'est-à-dire le pourquoi on les mange. Pourquoi on mange ça en particulier avec, bon, je crois que ça, on a commencé par parler de ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et on va terminer avec juste avant le repas, on va dire une partie du Hallel, commencer une moitié du Hallel. Hallel, c'est un ensemble de Tehillim, n'est-ce pas, comme vous savez évidemment. D'accord, qu'on récite les jours de fête. Là, c'est un hallel tout à fait spécial parce que on va le réciter de nuit. On ne récite jamais normalement tout ça de nuit, mais on va le réciter de nuit. Et d'abord, il faut dire que on a une obligation, effectivement, de rendre grâce à Hachem pour effectivement, ça c'est l'introduction, puisqu'il faut rendre grâce. Alors, on explique qu'on a cette obligation. Et puis, on s'acquitte de cette obligation et et on chante, enfin on dit les deux premiers paragraphes du Hallel. C'est-à-dire un premier qui est général et le deuxième qui parle effectivement de la sortie d'Égypte, de cet Israël Mimisraïm, le deuxième chapitre. Et ensuite, on voit un kos, qui est en fait, qui vient justement sur ces louanges. Donc c'est la deuxième des quatre coupes. Et ensuite, on se lave comme toujours pour manger du pain, en l'occurrence la matzah, et on va manger la matzah, c'est-à-dire faire la mitzvah de la soirée, consiste à manger une certaine quantité de matzah. Et on va faire la bracha. Bon, on va faire un motzi parce que c'est du pain. On va faire une bracha spécifique qui est la mitzvah que, comme on fait une bracha sur n'importe quelle mitzvah, sur le shofar, sur le lulav, etc. On fait aussi une mitzvah sur achilat matzah. Parce que c'est une bracha sur les mitzvahs. Les bracha qu'on fait quand on va faire une mitzvah. Donc on fait cette bracha et ensuite on mange, et comme tout ce qu'on fait dans la soirée, chaque fois qu'il faut manger ou boire quelque chose de précis, à part le karpas, on fait ça accoudé. On dit accoudé. En vérité, c'est une drôle de chose parce que ça vient de l'obligation qu'on a de se comporter en homme et en femme libre. Alors, ils n'ont rien trouvé de mieux à prendre comme modèle de personnes libres. Ben, c'est comme les gens qui étaient libres à ce moment-là, c'était les Romains, quoi. Et les Romains, ils mangent sur des lits. Et donc, nous, on est censé manger aussi sur des lits. Alors, il y a des gens qui savent manger sur des lits, des gens qui ont des tables basses, qui font un céder entièrement au sol quasiment, et qui savent manger sur les coussins, etc. Et puis les autres, ben, ils s'accoudent, mais il ne s'agit pas de s'accouder sur la table, parce que s'accouder sur la table, ce serait être triste ou pensif, etc. Il s'agit de, on appelle ça s'accouler, mais on va s'accouder. Mais c'est une espèce de pseudo-couché, enfin, soi-disant un peu couché sur le lit d'apparat, c'est-à-dire que vous avez probablement dans les côtes, les accoudoirs, etc. Enfin, chacun fait comme il peut. Alors on s'accoude. Et puis après, donc, du coup, ça pose des problèmes parce que, enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mais quand vous avez une coupe qui est remplie à ras-bord et qu'il faut la faire passer de la table à la position très confortable dans laquelle vous êtes pour arriver à boire et que vous n'en mettiez pas la moitié sur... Bon, c'est déjà assez compliqué, mais on essaye, on fait ce qu'on peut. Et ensuite, il y a aussi la mitzvah de Achilat Maror. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà fait le Boré Pri Adama. Vous vous souvenez, il y a longtemps, quand on a mangé le karpas, on a fait le Boré Pri Adama, qui est valable aussi pour manger le Maror. On avait expliqué que grâce à la bracha commune, ça nous donne une idée de ce que c'est que cet apéritif qu'est le karpas pour nous inciter à avoir de l'appétit pour la liberté. Et là, en plus, on fait la bracha à la filat maror, comme on a fait à la filat matzah. Ensuite, il y a une habitude. Il avait l'habitude de faire un sandwich, en réalité. Il faisait un sandwich dans lequel il mettait la matzah et le maror entre deux morceaux de matzah, en fait. Il mangeait ça en sandwich. Lui, il pensait que c'était comme ça qu'il fallait le manger, parce que c'est aussi comme ça qu'on aurait dû manger le Korban Pessah, en réalité. Si on avait pu manger le Korban Pessah à ce moment-là, on mange ce Korban en sandwich, en réalité. Donc ensuite, il y a des Il y a des restaurants célèbres qui ont repris le concept, sans payer de droits d'ailleurs. C'est bon, c'est une sandwich, ça marche très bien. Certains.
Donc, il s'est transformé en matza. Et pourquoi il s'est transformé en matza et pas en prière, comme on peut faire, par exemple, des prières pour de Corban pour les. Pour,
Attendez. Qu'est-ce qui s'est transformé en matza?
La ficomène.
On n'est pas à la ficomène pour l'instant. On est à Corère. On est au sandwich à Corère. On n'est pas du tout encore à la ficomane. Je répondrai bien à votre question sur la ficomane, mais pour l'instant, on est dans Corère. Ce que Hillel faisait, c'est qu'il faisait son sandwich pour manger à la fois, puisqu'on mangeait. Le Coran Pessah, c'était marqué Al Matzot Umrorim Yoplu. Donc, il fallait manger Matzot et Mrorim. Et quand on avait le Coran Pessah, on mangeait tout ça ensemble. Lui, il faisait comme ça. Au moment où on dit. Lui, il était, c'est un peu compliqué parce qu'on dit que Bisman Shevet Amigdash Aya Kayam, Aya Korech Matzah Umaror. Mais alors, si le Bet Amigdash était Kayam, il aurait dû faire un Korech avec Pesach Matzah Umaror, non? Et ils mangeaient tout ça ensemble. C'est marqué Al Matzot Umorim Lo Yorlu. On les mangeait, disons, la viande sur Matzah et Moror ensemble. Donc, on mangeait ça tous ensemble. On fait ce sandwich. Donc avec ça, on a terminé avec, enfin pas complètement terminé, avec la mitzvah du soir. Il reste encore deux autres kossotes, mais on a fini avec matzah et maror. On n'a peut-être pas complètement fini avec matzah parce que je vous ai dit que certains considèrent que la mitzvah d'achilat matzah, elle se fait avec la ficomane. D'accord. Donc ils mangeaient la ficomane. Aujourd'hui, c'est comme ça, de la mitzvah d'achilat matzah. Et puis, avant d'arriver à la ficomane, il y a d'abord le repas, qui pour certaines personnes est quand même l'essentiel, c'est-à-dire celui qu'on a attendu toute la soirée. Et une fois que le repas est terminé, alors là, on va avant faire Birkat Hamazon, justement. Il y a le fameux, ce qui s'appelle Tsafoun. C'est-à-dire, c'est la ficomane. On va manger maintenant la ficomane. Après le repas, alors on mange la ficomane. Et alors, je ne sais pas pourquoi Odile voulait qu'on le transforme en prière. Non, c'est comme il s'agissait de manger quelque chose et qu'on n'a pas beaucoup le choix de manger quoi que ce soit. On ne veut pas. Quand on faisait des choses pour rappeler quelque chose d'autre, on ne fait jamais la chose. C'est-à-dire, on va pas manger un morceau de grillade à la place du Korban Pessah. Ça, on fait jamais. Parce qu'on ne veut pas confondre ce qui était les corbanotes et la viande profane, si on veut. Donc, quand on fait un zecher, on fait quelque chose qui rappelle, mais pas du tout. On va pas faire une approximation de la chose qu'on ne peut pas faire. Mais par contre, on va faire quelque chose qui rappelle. Donc, comme il s'agissait de manger, on va manger. Et qu'est-ce qu'on peut obliger, qu'est-ce qu'on peut demander aux gens de manger, qui est Shavé Bakol, qui va pour tout le monde, c'est de la matzah. Donc on va manger la matzah comme afikoman, comme dessert en réalité. Et comme c'est censé représenter ce qu'on mangeait en dernier, c'est-à-dire le Korban Pessah, alors que de même qu'on voulait garder le goût du Korban Pessah dans la bouche, aussi longtemps que le temps d'approcher de manger le Coran Pessah était encore bon, ça veut dire ou jusqu'à Hatzot ou jusqu'au matin, selon la Machloket et Machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ben Azaria, c'est pour savoir si on a toute la nuit ou seulement la moitié de la nuit pour manger le Coran Pessah, et du coup c'est la même chose pour la Ficoman. Et donc certains disent qu'il faut manger la Ficoman avant Hatzot, a priori. C'est une chumra, oui. Miladin, nous, on est pensé que c'est caché jusqu'au matin. Mais comme c'est une mitzvah de Raita, etc., on essaie de faire au mieux. Et donc, on mange cet afikoman, toujours accoudé, comme toujours. parce que dès qu'on doit manger ou boire, il faut s'accouder, sauf Carpas, encore une fois. Et c'est ça la dernière chose qu'on mange. Et après, il y a encore Birkat Hamazon. Il y a à la fin de Birkat Hamazon le troisième kos. Et ensuite, après ce Birkat Hamazon plus le troisième kos, il y a un Hallel qu'on n'a pas terminé. On vient Shvor Hamatra. Et puis ensuite, il y a le Hallel à terminer à partir de l'Olano. On termine de chanter le Hallel avec ensuite d'autres choses, que d'autres textes qui ne sont pas dans toutes les Haggadot, semble-t-il, dans Rambam ou Rabba Banel. Leur Haggada s'arrêtait là, semble-t-il. Parce qu'on voit dans leurs commentaires, on voit que c'est comme ça. Et donc il y a Nishmat, etc. Et puis le quatrième kos. Et puis c'est fini. Alors après, il y a encore d'autres chants, comme d'habitude, y compris le fameux Chad Gadia ou Adir Vimlucha. Enfin, chacun ses habitudes, en fait. C'est des Rami Yodéa, etc. Tout ça. Donc, en gros, ça, c'est le schéma du CDR. Alors, ce que je ne sais plus du tout, où est-ce qu'on en est? Attendez. Dimanche. Ouais, dimanche, on peut faire court encore, c'est ça? C'est bon? Dimanche prochain, c'est court? Ok, alors on continuera sur ça encore. Dimanche, puis après, il y a encore. Pardon ?
Quand on faisait, par exemple, le pour une faute, il y avait un corban qui était apporté et ça a été remplacé par un vidouille, par une prière.
On l'a pas remplacé, Odile. On l'a plus. Maintenant, on dit que si quelqu'un étudie le korban, la chod de korban, c'est comme s'il l'avait amené, parce que dans la mesure où aujourd'hui le maximum de ce qu'on peut faire, c'est étudier éventuellement même les halachot, etc. Puis après, ben, pour passer à l'acte, on peut pas parce que on n'a pas de bêta migdash ou d'autres raisons, et donc on fait pas le remplacer. Puis il y a pas de vidouille qui remplace, c'est pas vrai. C'est très, ça fait pas de mal de faire un vidouille, mais le vidouille ne remplace pas le korban. La seule chose dont on dit que ça remplace, parce qu'il y a un pasouk qui va sur tous les corbanotes, où on dit « Neshalma parim svatenu », c'est-à-dire on va payer les taureaux qu'on aurait dû amener, c'est le mot général pour tous les animaux, « svatenu » avec nos lèvres, avec notre étude, l'étude qu'on va faire. Alors c'est sûr que si quelqu'un avait fait une faute, donc quand il apportait son corban, il fallait qu'il fasse tchouva, et la tchouva, ça passe par un vidouille. Alors cette partie-là, on peut la faire. Rien ne vous empêche, mais ça ne remplace pas du tout le korban, puisque le vidouille, il était là aussi quand il y avait le korban. Le vidouille, c'est le geste de la tchouva. Il ne s'agit pas de remplacer. Le seul équivalent, je vous dis, le seul équivalent qu'on a, c'est l'étude. D'autres questions? Ok, ben dans ce cas-là, je vais vous libérer.
Merci.
Bon, Rachel n'est pas là, donc.
Merci, bonsoir.